L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique au cours de laquelle nous recevons Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et aussi, c'est une ancienneté moins importante, mais ancien collaborateur de l'Esprit public. Lionel Zinsou, bonjour.
Bonjour.
Nous, c'est-à-dire Nicole Nisotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Jean-Louis Bourlange, essayiste. Lionel Zinsou, après avoir été conseiller spécial du président béninois, Thomas Boniyahi, de 2006 à 2011, et Premier ministre pendant un an, à partir de juin 2015, vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle du Bénin, en appelant notamment à un développement des investissements publics en faveur de l'emploi des jeunes, de la santé, de l'agriculture et de la réalisation de nouvelles infrastructures. En tête au premier tour, vous avez finalement été battu par Patrice Talon le 6 avril dernier. Franco-béninois, normalien, agrégé d'économie, vous avez été conseiller de Laurent Fabius et vous avez travaillé à la Banque Rothschild avant de prendre la tête de PAI Partners, l'un des plus importants fonds d'investissement d'Europe. Vous reprenez actuellement à Cotonou un projet de création d'un autre important fonds d'investissement en Afrique, projet que vous aviez interrompu, suspendu, en devenant Premier ministre en 2015. Quoique vous soyez très engagé pour le développement de l'Afrique, vous récusez le qualificatif d'afro-optimiste et vous assurez porter un regard réaliste sur les avancées comme sur les blocages du développement du continent. En 2005, vous avez créé à Cotonou la Fondation Zinsou, d'abord pour exposer et faire connaître des artistes contemporains africains, puis pour soutenir des projets de développement et d'éducation. Vous avez défendu dernièrement le bilan de votre année de primature en montrant que le Bénin est dans une situation de stabilité monétaire et économique, avec le nouveau départ en 2012 d'une croissance qui se situe entre 5 et 6%, alors que la crise économique mondiale l'avait ramené à 2,5% en 2010, le taux le plus bas de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, malgré cette croissance forte, la pauvreté reste importante et la société très inégalitaire. Le coton et l'agriculture représentent 36% du PIB, le commerce et les transports respectivement 18 et 11%, l'économie souterraine pèse lourd, la contrebande d'essence en provenance du Nigeria, le Kpayo, génère plus de 122 millions d'euros par an et 150 000 taximotos pour la seule ville de Cotonou assurent les déplacements des habitants en l'absence de transport public. Le politiste béninois Gilles Yabi critique cette démocratie Kpayo dominée par l'impunité et la quête du profit immédiat qui rend plus difficile l'exercice de l'autorité de l'État. Le FMI a réduit ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne de 5,4 à 3% pour 2016, le taux le plus bas depuis 1999, il était de 3,4 en 2015. Cette baisse d'une croissance pourtant solide depuis 10 ans serait due au développement d'un cycle négatif sur le continent, provoqué par différents facteurs, la chute des prix des matières premières, qui touche principalement les pays exportateurs de pétrole, les mauvaises conditions climatiques qui entraînent de nombreuses sécheresses en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ou encore l'épidémie d'Ebola. Cependant, des perspectives favorables demeurent dans certains pays qui conservent une croissance importante, comme le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Lionel Zinsou, vous affirmiez dans une interview donnée au Point l'année passée que le décollage économique de l'Afrique n'a pas été uniquement permis par une hausse du prix des matières premières, mais aussi par des facteurs culturels, politiques, démographiques, plus profonds, plus durables, notamment un développement de l'éducation et des progrès technologiques. Nous vous demanderons ce que vous pensez de ce développement de fonds et s'il sera suffisant aujourd'hui pour faire face à la baisse du prix des matières premières et pour permettre la croissance des pays de l'Afrique subsaharienne. Nous vous demanderons par quelles étapes vous pensez qu'il faille passer pour réformer un État comme l'État béninois et donner davantage d'autorité à la puissance publique. Nous vous demanderons aussi comment vous envisagez votre action future au Bénin, si vous voulez, si vous pensez pouvoir agir pour aider au développement du pays, et si c'est sur le plan politique ou sur d'autres plans, et vous choisirez, selon la tradition que vous connaissez des émissions thématiques de l'Esprit public, vous choisirez celle de ces questions et même d'autres que vous voulez aborder. Mais auparavant, nous aborderons, si vous voulez bien, ce qu'a été cette campagne pour la présidence de la République du Bénin, et c'est Jean-Louis Bourlange qui sera le premier à vous interroger.
Oui, Lionel, nous sommes tout à fait, nous avons été vraiment fascinés par cette aventure, par d'abord ce courage d'arriver dans un pays, de devenir Premier ministre et d'essayer de s'imposer comme président dans une culture politique quand même très particulière, très différente de la culture française, occidentale. Et je voudrais, et nous voyons les difficultés que vous avez eues quand on regarde les coupures de presse, etc., on voit bien que c'était quand même quelque chose d'étonnant que, dans une société qui fonctionne très différemment de la nôtre, d'arriver à introduire, à faire prospérer des mœurs politiques qui sont quand même ceux de démocratie consacrées comme celle de l'Occident. Il faut savoir comment vous avez vécu ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que, quand vous revoyez le film qui vous a conduit du poste de Premier ministre au poste de candidat, au bout du compte, battu par votre adversaire, à la suite d'une campagne très rude, où d'ailleurs vous avez reçu des coups qui étaient très vigoureux, alors que vous-même avez eu un comportement extrêmement, je ne dirais pas chevaleresque, mais démocrate et respectueux de votre adversaire. Est-ce que vous avez le sentiment que, à un moment, vous avez commis une erreur importante, stratégique ou tactique, qu'il y avait quelque chose que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait, ou est-ce que vous avez vécu ça comme une tragédie grecque? C'est-à-dire comme le sentiment d'être engagé dans un processus dans lequel il n'y avait pas d'issue pour ce que vous représentiez à ce moment-là dans ce pays-là. C'est évidemment une question, c'est une question très romanesque, si je puis dire, mais qui ne peut pas manquer de survenir à tous ceux qui regardent la chronique de cette extraordinaire aventure politique.
Lionel Zinsou.
Non, j'aime bien l'idée de tragédie grecque, parce que vous avez à un moment une impression que le destin, même si votre aventure personnelle est au fond un petit peu anecdotique, le pays n'est pas la plus grande puissance d'Afrique, mais vous avez quand même l'impression d'être un peu le jouet du destin. En réalité, je ne suis pas parti comme Premier ministre pour être candidat à l'élection présidentielle. Et puis, il s'est produit ce qu'on voit dans beaucoup de démocraties, il n'y avait pas, dans le parti présidentiel, de choix qui allait faire l'unanimité, et au contraire, il y avait des principes d'éclatement du parti qui était au pouvoir, à travers des élections primaires, qui étaient au fond, pour nous, une première, mais qui vont se généraliser en Afrique. Et les primaires, comme on le sait en France, ça peut énormément diviser, ça peut créer des clivages terribles, et on était en train de créer des clivages terribles, et on allait se retrouver avec 7 candidats du parti présidentiel, et il fallait quelqu'un qui fasse un peu l'unité de ce parti. Et souvent, on vient le chercher un peu sur les marges, un peu différent. Chacun dans la classe politique connaissait trop tous les autres pour pouvoir s'effacer. Chacun craignait peut-être tous les autres. Et donc, c'est vrai que tardivement, parce que quand je vois les primaires du Parti Socialiste Français prévues pour janvier 2017, je me dis, c'est vraiment tardif, parce que nous avons fait nos primaires début novembre, ce qui est beaucoup trop tard en réalité, pour avoir le temps d'accomplir les consultations primaires, et puis ensuite de recoudre les plaies. Et donc, il y a un travail chirurgical, émotionnel et politique très très fort à faire, et donc c'est évidemment court de partir en novembre. Mais à fin octobre, il y avait une situation de blocage un petit peu de la démocratie. Et d'ailleurs, les autres grands partis, il y a 3 grands partis dans ce pays, étaient eux-mêmes incapables de désigner dans des primaires des candidats qui fissent l'unité. Et au total, il s'est présenté un certain nombre d'indépendants, si bien qu'au premier tour, nous étions quand même 32. Et 32, pour faire une différence nette au premier tour, voire pour être élu au premier tour, c'est un peu compliqué, même s'il y avait une polarisation des 5 plus grands candidats qui ont eu à 5, 75% des voix. Donc, il y avait aussi des gens qui faisaient là du petit commerce électoral de leur position pour le second tour. Mais c'est quand même une indication qu'on avait des difficultés à faire la sélection, en fait, des candidats. Et donc, je me suis retrouvé à tout petit peu jouer du destin, parce que j'étais venu comme Premier ministre par un sentiment du devoir. bon, à 60 ans, je ne peux pas dire toujours non, ça faisait 15 ans que je disais non, à l'idée de venir servir mon pays. Donc j'ai dit oui, en me disant à la fois, ça me passionne, ça m'honore, et puis en même temps, je n'ai pas à satisfaire des ambitions politiques, personnelles, je suis un peu détaché. Mais je vais faire mon devoir, mon service civique, je le fais comme Premier ministre, un peu tardivement par rapport à l'âge où on fait son service civique, son service militaire. Et à nouveau, le destin m'a joué. Et donc, vous savez, je ne sais pas si c'est grec ou latin, mais le fatum, c'était, si tu ne viens pas, c'est vraiment un désordre considérable, une impossibilité de continuité. Et en même temps, un autre aspect du destin, c'est que vous savez bien que quand vous êtes Premier ministre de n'importe quel gouvernement, ça c'est une espèce de loi de la thermophysique politique, vous assumez tout l'héritage, même si vous avez été... Premier ministre quelques mois, et vous êtes le candidat de la continuité, dans un contexte où après 10 ans, ça suffit, vous avez un effet de ras-le-bol. Donc, si vous voulez, la loi qui veut qu'un Premier ministre sortant dans un système qui est un système présidentiel, mais enfin, vous êtes le premier des ministres, et que vous soyez l'héritier, quand bien même vos opposants ont conduit une action pendant 8 ans sur 10 avec le gouvernement et du président sortant. Vous êtes celui qui, dans les 8 derniers mois, assume tout l'héritage et pour autant qu'il se soit brouillé avec le pouvoir dans les 12 à 18 mois qui précédaient, vos adversaires, eux, sont vierges de tout ce qui concerne ou la corruption, les affaires, les scandales, les ratés, les échecs, etc. Et donc vous assumez tout ça et vous savez que vous l'assumez. Mais en même temps, là encore, c'est une question de, c'est un peu une question de devoir. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, là où ce n'est pas forcément que de la tragédie, mais aussi de la comédie, c'est que après, vous descendez dans l'arène et il y a 4 millions d'électeurs et vous en rencontrez physiquement 3 millions. Et quand vous êtes un homme privé et que vous allez au-devant de millions d'électeurs, à des centaines de kilomètres de la capitale, et que vous voyez un pays dans ses profondeurs, que vous voyez ce que jamais vos yeux n'auraient vu, n'auraient lu dans les statistiques, et n'auraient vu si vous aviez été un simple citoyen, à partir du moment où les enfants de 3 ans, dès qu'ils savent parler, crient votre nom, alors que vous avez l'impression que 3 mois avant... Vous voyez pas du tout qui j'étais. Vous avez fait allusion, Philippe, à la fondation Zinsou qu'on avait créée, et c'est ma fille qui l'a créée, qui l'a dirigée. Et moi, ça faisait des années que j'étais très habitué à être présenté par ma fille comme je vous présente mon père. Et donc la star dans la famille au Bénin, c'était ma fille. Et alors là, pendant quelques mois, maintenant c'est à nouveau en train de se remettre comme ça, mais pendant quelques mois, c'était l'inverse. J'étais redevenu quelqu'un qu'on connaissait, bon, dans une lignée familiale, un lignage où mon oncle avait été président de la République. Donc, comme il avait été président de la République à la fin des années 60, vous faites allusion aux attaques. J'étais, depuis l'enfance, vacciné, immunisé. Je savais très 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 bien qu'être candidat, c'est être une cible. J'ai un ami... qui s'appelle Emmanuel Macron.
Oui,
je lui dis, mais Emmanuel, il ne faut pas dire je suis blessé, puisque les gens ne veulent que vous blesser. Emmanuel, la particularité quand vous êtes ministre, c'est qu'on vous attaque beaucoup, beaucoup plus que si vous étiez un homme privé, mais en général, ce sont vos adversaires. Quand vous êtes candidat à la présidentielle, vous y ajoutez tous les gens qui sont censés être vos amis politiques. Et donc, vous êtes la cible absolument de tous. Et donc, ça, et je lui ai donné un conseil que je donnerais aussi bien en Afrique, enfin, sous toutes les latitudes. Ce que vous faites, vous prenez les 30 calomnies les plus habituelles, vous les écrivez, vous remettez ça à vos parents s'ils sont sensibles et âgés, et à vos enfants s'ils sont en état de comprendre, et après, chaque fois qu'on vous accuse d'une abomination financière, sexuelle, familiale sur votre filiation, etc., il coche les cases en se disant, bon, ça y est, on est à la 22e calomnie, et vous verrez, c'est quelque chose qui détend absolument tout le monde. Il y en avait une qui n'était pas sur ma liste, qui était, c'est un sale juif, puisqu'il était à la banque Rothschild, et en fait, c'est bon pour aucun candidat dans aucun pays d'avoir été à la banque Rothschild, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment une banque magnifique, c'est un sale juif, puisque sinon il n'aurait jamais été recruté par Rothschild, comme il a une mère française, parce qu'on n'a pas beaucoup comme ça de juifs dans cette partie-là de l'Afrique, on n'est pas en Éthiopie, donc c'est pas par son père, donc sa mère est donc juive, sinon il n'aurait jamais été recruté, et c'est un instrument du complot juif mondial. Alors je dois dire, celle-là, ça n'était pas la 31e calomnie sur ma liste. Donc ça, si vous voulez, où on a été vacciné dans l'enfance, ou pas. Et moi, j'ai été vacciné de ça. J'ai été aussi vacciné l'ambition des vanités du pouvoir. Et ça aussi, c'est très, très, c'est très utile, si vous voulez. Moi, j'ai la chance d'avoir été, j'étais le seul des 32 candidats, d'avoir été dans une famille où vous connaissez l'avant, le pendant et l'après du pouvoir. Donc vous connaissez tout depuis le moment de l'espérance extraordinaire, de « on va agir, on va transformer ce pays, ça sera un pays émergent », etc., jusqu'au coup d'État. Et dans ma famille, on a laissé la porte de la déesse Citroën criblée de balles. Elle est comme une sculpture dans le jardin familial. Et elle rappelle aux enfants, comme ça, depuis quelques décennies, que le pouvoir, ça finit aussi comme ça. Et que les honneurs du pouvoir, l'argent du pouvoir, tu as utilisé avec modération, parce que c'est pas ça du tout la réalité du pouvoir. Là où mes 31 concurrents, eux, je crois, avaient plein d'espérance sur l'abondance de biens que représente le pouvoir.
Ce détachement ne vous a-t-il pas nuit?
Si, c'est possible. C'est possible
que les gens aiment ce dont ceux qui dépendent d'eux.
C'est possible qu'il fasse. Oui, non, c'est possible. Moi, j'ai un tout petit peu une formation réflexive comme ça, d'universitaire, et donc c'est possible qu'il fasse quelque chose de plus animal, si vous voulez, de plus fort, de plus violent, et sentir une espèce de besoin de vie ou de mort. Si on échoue, c'est la mort. Bon, d'ailleurs, la mort est un autre aspect un petit peu tragique.
Mais vous n'êtes pas passé loin.
Oui, mais c'était un accident. Oui, alors, il se trouve que j'ai eu un accident d'hélicoptère dans une fonction gouvernementale et pas électorale, même si c'était présenté. Je n'allais pas en campagne avec les moyens de l'État. J'allais à conduire une délégation gouvernementale. Mais c'est vraiment une question de météorologie. Mais au Bénin, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, la météorologie elle-même est quand même plutôt une affaire que règlent les dieux des lois de la physique. Et donc, pour tout le monde, quelqu'un m'a même dit, ce que vous avez fait de mieux politiquement ces derniers mois, c'est vraiment votre accident d'hélicoptère, parce que vous avez prouvé que les forces des ancêtres, les mains des ancêtres, vous accompagnaient pour vous sauver la vie, et que donc vous alliez gagner ces élections parce que vous étiez supérieur dans vos forces magiques, ce qui semble vrai d'ailleurs, à la plupart de vos concurrents, puisque vous avez survécu. Mais objectivement, en dehors des forces du mal, c'était quand même vraiment la météo, par vent de sable et visibilité très, très faible. Mais c'est vrai que, entre un homme privé et un homme public, une des différences, c'est le fusil d'assaut qui est devant dans la voiture. Une des différences, c'est cette espèce de sentiment que la mort plane. C'est pour ça que moi, je conseillerais aux gens de commencer une carrière politique assez tard. J'ai dit ça par rapport à mes jeunes amis de la politique française. J'ai plein de jeunes amis qui sont candidats aux primaires des deux côtés. Moi, je crois qu'il faut commencer ça assez tard, quand à un moment où on se dit, oh, après tout, à 60 ans, on a accompli beaucoup de choses, et donc, si, au fond, on n'y survit pas, ça n'est que hâter un tout petit peu un processus biologique assez naturel, parce que c'est quelque chose qui flotte et que l'homme privé ne connaît pas. Quand vous entrez dans une foule, si vous voulez, moi, je n'ai eu aucune réunion publique en 100 jours de campagne active où il y ait eu moins de 15 000 personnes devant moi. C'est-à-dire, c'était le Bourget tous les jours. C'est pas les préaux d'école. Il y a une participation démocratique en Afrique qui est extraordinaire. Un intérêt, une curiosité, je dirais même une générosité des populations qui sont extraordinaires. Une écoute, une attente, une espérance, des messages qui s'échangent, des choses qui se communiquent. Mais en même temps, vous rentrez dans une foule dont vous savez pas si elle est hostile ou amicale. Et donc, il y a cette espèce de présence permanente d'une sorte de danger physique dont aussi il faut être complètement, je crois, distancié et se dire, bon, ben ça, c'est un peu le destin. Et donc, la chance, si vous voulez, moi, j'ai fait des études de grec. Et donc, effectivement, tout d'un coup, vous êtes dans Échille. au lieu juste de traduire en annonant les tragédies d'Eschyle, si vous voulez. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance dans la vie. Vous passez quelques semaines à l'intérieur d'une tragédie grecque. Je suis bien de l'avis de Jean-Louis Bourlange, comme d'habitude.
Michaela Wigel.
Oui, alors vous avez mentionné les reproches qui vous ont été faits, et dans ces reproches, il y en a une qui m'a beaucoup intriguée, c'était justement le fait que vous soyez à moitié français. Et j'ai envie de vous demander de nous dresser un état de lieu, en quelque sorte, de ce que, même en Allemagne, on appelle la France-Afrique. Puisque j'ai l'impression d'un miroir dans lequel on voyait justement ces relations privilégiées entre la France et beaucoup de pays de l'Afrique, les anciennes colonies, et même aujourd'hui un peu au-delà, j'ai l'impression que c'est devenu un repoussoir, c'est-à-dire vous êtes même pénalisé par le fait de pouvoir être soupçonné un agent, ou je ne sais pas comment on dit ça, quelqu'un qui perpétue la France-Afrique. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point ? Est-ce que ça marche encore, ou est-ce que c'est vraiment juste un repoussoir aujourd'hui ?
Lionel Zinsou.
Alors, si vous voulez, vos adversaires, ils ont besoin de trouver des arguments qui vous disqualifient. Un des principaux journaux qui appartient au président actuel, et donc au candidat d'alors, a écrit « C'est quand même pas parce qu'on est probe et compétent qu'on a le droit de devenir président de la République. » Effectivement, c'est pas suffisant.
Mais
même s'il y a un petit effet de rareté. Mais bon... Oui. Donc il faut trouver quelque chose, si vous voulez. Mais moi je considère ça que c'est un des plus beaux hommages que j'ai jamais reçus, si vous voulez. Et donc on a essayé le thème raciste. C'est un blanc, qu'il revienne chez lui. D'ailleurs il a jamais passé de temps chez nous, il est venu en vacances. Bon. Et ce thème raciste, il a eu probablement un effet inverse. C'est-à-dire que sur les populations, les enfants de sang mêlé sont des enfants comme les autres. Et évidemment que quand on envoie les gens faire leurs études dans les familles, tout le monde se sacrifie. Et très souvent, on revient avec des enfants de sang mêlé, avec des conjoints. Et ça n'est pas, dans cette partie-là de l'Afrique, et ça n'est pas, en tout cas au Bénin, du tout, quelque chose de rejeté. Pas du tout. Donc, le thème raciste, c'est un blanc, qui, bon, pour moi, était un peu nouveau, hein, parce que si j'ai été discriminé, ce que je ne crois pas, pendant 60 ans, c'était comme noir, mais jamais comme blanc. D'ailleurs, il y a eu un jour assez amusant, je suis allé à l'Assemblée Générale du MEDEF, au mois d'août, et c'était télévisé en direct, donc les internautes ont réagi, et ça se terminait par une table internationale, et puis un discours de Monsieur Emmanuel Macron, sur le thème des 35 heures, c'est peut-être pas très utile, donc ça a fait un peu de buzz, cette fin de l'Assemblée Générale, et je suis monté dans l'avion une demi-heure après, et j'ai regardé sur les réseaux sociaux, et j'ai vu un électeur du Front National qui disait « Qu'est-ce que ce nègre endimanché vient nous donner des leçons d'économie à Jouy-en-Josas ?» Bon. Et puis j'ai atterri à Cotonou, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé dans les 48 heures sur les réseaux sociaux, j'ai dit « Mais qu'est-ce que ce blanc vient nous donner des leçons chez nous ?» Et comme je ne peux pas m'établir à mi-chemin, parce que le mi-chemin, si vous voulez, c'est le désert algérien, si vous voulez, donc je n'ai pas vocation non plus à être ermite, si vous voulez, ça c'est la condition des métis, vous êtes étrangers partout, mais ça marche pas, le terme raciste ne marche pas. Il y a probablement d'autres parties d'Afrique où la tension est forte sur ce thème. En revanche, ce qui a assez bien marché, c'est le recolonisateur, c'est celui que la France a imposé pour recoloniser le Bénin. Et alors, ce que vous pouvez jamais faire en politique, vous pouvez le faire à la radio, c'est du second degré. Parce que j'ai commencé sur le thème, vous savez, avant que la France s'intéresse et envoie des gens pour recoloniser le Bénin, pour s'approprier ses richesses, moi, je nous conseille collectivement de recréer des richesses. Oui, parce que je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à la richesse de la France de recoloniser le Bénin. Nous pesons 1% de la population de l'Afrique, 0,3% du PIB de l'Afrique. S'il y avait quelque chose à recoloniser, je ne suis pas sûr que ce serait le Bénin. D'ailleurs, je ne vois pas très bien, ni de la droite, ni de la gauche en France, qui est passionné de recolonisation, notamment la gauche est assez associée à l'idée de déconnaissance. Alors ça ne marche pas du tout.
l'être candidat au Nigeria avec un raisonnement pareil.
Oui, par exemple. Par exemple, le Nigeria, c'est notre voisin sur 700 kilomètres, si vous voulez. Nous avons un PIB de 10 milliards de dollars. Ils ont un PIB de 500 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas si on est la priorité de la recolonisation. Et donc, du néo-impérialisme, du post-néo-impérialisme. Donc, au fond, je pensais que ces thèmes n'auraient aucune faveur. En fait, ils ont une faveur auprès, je dirais, de deux catégories dans la population. C'est un peu comme une courbe en nu de statistique. Le rejet de la France et de l'Occident, il est fort chez les gens les plus âgés, qui sont assez restés dans une idée. La France-Afrique, elle a beaucoup décliné en puissance, hein, la France-Afrique. Mais la France-Afrique, c'est une vraie réalité économique, de contraintes, c'est une vraie réalité politique. Et il y a des gens à qui j'ai l'impression d'apprendre que Jacques Foccart est mort, en fait. Oui, c'est un peu. Et je sens bien que c'est pas une bonne nouvelle. Je sens bien que. Et donc, ça existe encore. Il y a un homme d'État que je respecte par ailleurs, qui a le sentiment que lui-même, dans sa carrière politique, a été renversé par la France. Bon. Et c'est vrai, la France a renversé beaucoup de gens. Je pense que, franchement, dans les années 2000, elle a renversé beaucoup moins déjà. Mais enfin, dans les années 60, elle a renversé beaucoup. Et ça existe encore chez les gens d'âge. Et ça existe aussi chez les jeunes gens. Ça a été d'ailleurs avivé par certains conflits. Ça a pu être avivé en Côte d'Ivoire, au moment où Laurent Gbagbo a fait de l'idée qu'il était un nationaliste qu'on voulait chasser du pouvoir, alors qu'il était peut-être quelqu'un aussi qui se perpétuait de façon totalement illégale et qui inversait le résultat des élections, mais enfin, qui a présenté ça comme une lutte titanesque entre l'Occident qui veut prendre la main sur la Côte d'Ivoire, et les nationalistes et les indépendantistes. Et en fait, ça a un écho qui est resté fort en Côte d'Ivoire, mais qui est fort un peu partout, et qui est, chez les jeunes, cette espèce de volonté épique et héroïque de revivre un combat qui est un combat de toujours, de l'identité, de l'indépendance, contre des forces du mal que la France-Afrique incarne. Tout ça, ça fait peut-être 10% des électeurs, si vous voulez, donc c'est pas déterminant pour les résultats, parce que dès que vous allez voir les populations, comme je crois dans tous les pays, les sujets de l'élection, c'est pas de savoir si la France-Afrique est un monstre, une hydre qui va s'emparer du Bénin, la question c'est, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité, il n'y a pas d'instituteur dans l'école, ou il n'y a pas d'école dans le village, et ce sont évidemment des questions sociales, des questions d'emploi, des questions... Dans un pays où il y a 33% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est évidemment des questions extrêmement réelles et extrêmement importantes. Et tout ce folklore, si vous voulez, sur « il y a des puissances du mal qui guettent le Bénin », franchement, ça n'a pas un impact électoral considérable, mais ça fait des thèmes de presse intéressants. Et il y a de jeunes troupes pour lutter contre la France-Afrique, avec une crispation toute particulière sur le franc CFA, et un certain nombre de symboles, de mots, garder le mot franc. Et donc, il y a un certain nombre de symboles qui cristallisent ça. Et une jeunesse, des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et qui se disent, il est grand temps d'accomplir le combat de la vraie décolonisation. C'est une attitude que je respecte, hein, si vous voulez. Ça m'agaçait qu'on dise, il a été imposé par François Hollande. Parce que François Hollande est tombé des nues quand j'étais imposé par François Hollande. François Hollande, il était prévu depuis des mois qu'il vienne en visite officielle quelques semaines plus tard. Donc tout le monde a écrit parmi les gens qu'il m'aimait guère. Maintenant, il vient vérifier qu'il est bien en place et qu'il va bien remporter les élections. Et donc, si vous voulez, cette fable a eu quand même plus de succès que le côté c'est un blanc qu'il rentre chez lui. Qui donnait plutôt le résultat inverse, c'était « Ah, mais les Blancs, au fond... » Alors, ça c'est rassérénant, je crois, pour les populations européennes. Ce sont des gens qui respectent le mérite, qui savent à peu près gérer, qui font à peu près ce qu'ils disent, qui ne volent pas l'argent des citoyens, à mon avis. L'Afrique est optimiste sur l'Europe, hein, mais c'est comme ça quand même qu'elle voit. Et donc, si on essayait un Blanc... était quelque chose d'assez fort. Et avec une phrase que j'aime beaucoup qui est « Bon, écoutez, les Américains ont fait un effort, ils ont élu un noir, et nous, on pourrait faire un effort et élire un blanc. » Alors, moi, je suis allé à la COP21, je me suis mis à côté de Barack Obama, j'ai constaté qu'on avait la même pigmentation. Et donc, à 7000 kilomètres près, on était noir ou on était blanc. Moi, j'étais blanc. C'était, je n'ai pas tombé du bon côté.
Nicole Diesotto.
Oui, moi, je suis tout à fait fascinée par votre aventure, mais j'aimerais vous interroger de façon un tout petit peu plus prospective sur le développement de l'Afrique en général. On a l'impression quand même qu'on a aujourd'hui une course de vitesse entre trois dynamiques, une croissance économique qui existe au niveau du continent, une croissance démographique et une explosion des crises stratégiques. Et la croissance économique, Philippe en a parlé, elle reste soutenue, même si elle diminue depuis quelques années, entre 5 et 3% depuis une dizaine d'années. La croissance démographique, elle est tout à fait étonnante. 1 milliard aujourd'hui, peut-être, d'après les chiffres des Nations Unies, 2,5 milliards d'ici 2050, soit un quart de la population mondiale, et puis l'explosion des crises stratégiques, la bande sahélienne, le Mali, le Niger, la Libye, l'Érythrée, le Sud-Soudan, on en parle très peu, mais quand même 2 millions de réfugiés, au Nigeria, à cause de Boko Haram, 1 million et demi de réfugiés. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est laquelle de ces dynamiques peut l'emporter ? Est-ce que les forces de la modernisation économique, de l'industrialisation, de l'entrepreneuriat africain vont être plus fortes que les forces de la déconstruction politique ? Ou est-ce que malheureusement, en particulier dans cette grande zone subsaharienne, les forces de déconstruction politique vont réduire à néant les efforts des entrepreneurs et des entreprises africaines ?
Lionel Zinsou.
Ça va quand même beaucoup, beaucoup dépendre des hommes, beaucoup dépendre... la réponse à votre question, elle n'est pas gagnée d'avance, elle n'est pas certaine. La croissance économique est très forte, parce que l'Afrique subsaharienne est en effet affectée par les matières premières, mais elle ne rentre pas en récession sous prétexte que le pétrole est tombé à 27 dollars en début d'année. Ou que depuis des années et des années, le fer, le cuivre, toute une série de matériaux qui sont exportés bruts par l'Afrique ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Ça atténue la croissance de l'Afrique subsaharienne. Les pays qui ont la chance de ne pas avoir de matières premières, vous savez, les économistes, à la différence des politiques, ont plutôt peur des matières premières et des effets de dégâts sur les économies. Les pays qui n'ont pas des matières premières, des rentes minières, c'est le cas de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à laquelle appartiennent les pays de la zone franc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Togo, le Bénin. Ces pays ont une croissance de 6% en 2015. Donc ils ont une croissance supérieure à la moyenne d'Afrique subsaharienne, puisqu'ils ont une chance que n'a pas le Nigeria, que n'a pas l'Angola, que n'a pas la Guinée équatoriale, que n'a pas le Sud-Soudan, de ne pas avoir de rente minière et de ne pas subir un choc conjoncturel aussi fort et d'ailleurs d'être non pas exonéré de crise stratégique mais enfin au moins il n'y a pas de crise stratégique qui soit liée directement au contrôle de ces matières premières. Donc on a cette situation où on est probablement là une des zones du monde en Afrique subsaharienne et dans cette partie-là qui est vraiment une croissance robuste. Et c'est beaucoup mieux quand vous avez une croissance démographique de 3% d'avoir 6% de croissance, parce que ça commence à permettre de rééquilibrer, de distribuer une amélioration non négligeable, d'autant que c'est soutenu depuis plus de 10 ans, non négligeable du bien-être et une modération, un cantonnement de la pauvreté. Maintenant, la croissance démographique, comme vous le dites, elle a une particularité exceptionnelle. C'est pour ça qu'en effet, je récuse le sobriquet d'afro-optimiste. Parce que c'est quand même plus compliqué. Si vous voulez, pensez à ce chiffre. Au Bénin, il y avait 2 millions d'habitants quand je suis né, juste avant l'indépendance. Aujourd'hui, il y en a 11 millions. Mais sur 11 millions, il y a bien le tiers qui sont dans une situation, au fond, passer en dessous du seuil de pauvreté, c'est vraiment être misérable. Et il y en a bien le tiers. Ça fait plus de 3 millions d'habitants. C'est ce qui veut dire que vous avez une fois et demie plus de pauvres aujourd'hui que vous aviez, en fait, comme totalité de la population, à l'indépendance. Maintenant, vous pouvez regarder l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez 7 à 8 millions de personnes qui vivent de façon digne et décente. Là où vous en aviez probablement moins de 500 000 à l'indépendance. Vous pouvez regarder donc les choses, mais il faut penser les deux choses à la fois. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus de pauvres et d'exclus, mais vous avez beaucoup plus de gens qui sont passés au-delà du seuil de la pauvreté et qui peuvent élever leurs enfants, les soigner, avec un effondrement des indicateurs de mortalité. Ce qui est très frappant, si vous voulez, sur cette croissance démographique, c'est qu'elle est quand même fondamentalement saine. C'est-à-dire, ça n'est pas que la fécondité, c'est l'espérance de vie qui est le moteur de cette croissance démographique, parce qu'elle s'allonge. Et donc, il y a des éléments qui sont très robustes dans cette croissance démographique et qui font que ce n'est pas un fléau. Je sais que, dans une émission récente, on a fait la publicité d'un livre, L'Africanistan, d'un honorable spécialiste du développement, qui a travaillé dans de grandes agences de développement, qui n'ont pas beaucoup développé, mais qui, enfin, qui sont de grandes agences quand même, et quelqu'un que je respecte, Serge Mikhailov, qui explique qu'il y a une tragédie démographique, et qu'elle est la matrice de toutes ces crises stratégiques que vous évoquez, et qu'elle va faire s'écraser au sol la croissance économique. Non, absolument pas. On vient de vivre déjà une croissance considérable et une transformation générationnelle extraordinaire dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et la démographie saine, par l'effondrement des indicateurs de mortalité, par une amélioration profonde du régime nutritionnel et des soins de santé, quand même une meilleure façon de croître, si vous voulez, que la simple fécondité débridée, alors qu'on entre en transition démographique, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui, dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisation, des biens de consommation, des services de santé et d'éducation, est la racine de cette croissance très durable. Mais les crises stratégiques, il faut bien voir qu'elles ne sont pas que le produit de nos déséquilibres. C'est pas parce que la jeunesse est au chômage, si vous voulez, que nous avons des djihadistes. C'est parce que nous sommes dans la mondialisation des crises. Et nous avons deux filiales qui opèrent dans notre région. La filiale de l'État islamique, la franchise de l'État islamique pour le Nigeria, et la filiale d'Al-Qaïda pour le Maghreb islamique et un certain nombre de groupes autour d'elle qui opèrent plutôt au Niger et au Mali, tout ça à 500 kilomètres, disons, de nos frontières, donc on le ressent. Et c'est une diagonale qui va, si vous regardez, du Maroc jusqu'au Kenya. C'est pas une bande, comme les gens pensent, sahélienne, dans laquelle, pour des questions d'aridité, pour des questions diverses, la bande du sud du Sahara serait très dangereuse. Non, c'est une diagonale du terrorisme avec des liens extrêmement forts depuis ce qui est un facteur de déstabilisation du Maroc jusqu'au Shebab de la Somalie et du Kenya. Et c'est très très largement le reflet en Afrique d'une situation qui n'est pas née en Afrique, qui est beaucoup plus née au fond au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afghanistan, et dont nous avons les conséquences, comme nous avons eu pendant des années des crises stratégiques vraiment liées à la guerre froide. Et il y a eu un moment de baisse de la conflictualité en Afrique, conflictualité qui reprend, hein, il faut tout à fait l'assumer, où la chute du mur de Berlin a fait qu'on a cessé d'être le champ clos des luttes Est-Ouest, qui vraiment ont dressé les régimes les uns contre les autres, les républiques populaires marxistes-léninistes contre les États pro-occidentaux soutenus à bout de bras par la CIA, si vous voulez, et on a été le champ clos jusque dans les années 90 de ça. Et maintenant, on est un peu, à nouveau, un théâtre d'opérations extérieures où se déroule une guerre qui n'est pas vraiment la nôtre. Alors, évidemment, il y a des facteurs de déstabilisation qui sont aggravants. Mais la présence de l'État islamique sous sa forme Boko Haram ou d'Al-Qaïda, si vous voulez, au Maghreb islamique, c'est quand même une importation d'un conflit qui partage le monde de façon bien plus large que l'Afrique.
J'avais juste une petite interrogation quand même sur ces chiffres de croissance, parce que moi j'ai le plus grand respect pour la Banque mondiale, mais quand je vois que les plus forts taux de croissance sont dans les pays les plus en guerre, je m'interroge. République démocratique du Congo, plus 9 voire 7% de croissance, Mali plus 6,2%, Burundi qui est dans un état lamentable, plus 4,6%. On se demande vraiment à quoi correspond cette croissance pour des gens qui sont dans ces pays. Est-ce que c'est pas une croissance quand même totalement extravertie, totalement liée à une économie exogène et non pas à une économie du développement de ces pays ?
Lionel Zinsou.
Si, si vous avez raison, c'est la grande question, d'ailleurs, c'est l'intérêt d'une campagne électorale, c'est que dans un pays qui, comme le Bénin, est quand même une vraie démocratie, hein, je dis pas que les résultats sont absolument ce que les gens ont voté. Vous voyez, je dirais, on est une démocratie un petit peu comme on a des primaires au Parti Socialiste ou au Parti des Républicains. C'est-à-dire que c'est quand même, ça a toutes les apparences d'une démocratie bien établie, mais on n'est pas tout à fait sûr que le résultat ne dépend pas un tout petit peu des appareils. Mais, en tout cas, ça permet d'avoir une campagne. Ça permet de traiter des sujets de fond. Et le sujet de fond, c'est qu'est-ce que c'est que cette croissance, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut en faire du développement. Le fait que vous ayez 6% de croissance, y compris dans des pays qui sont partiellement en guerre, c'est bien réel. Si vous voulez. 6% de croissance, ça veut dire que les entreprises font quelque chose comme du 10-12% de progrès de chiffre d'affaires, et ça vous le mesurez. De façon, vous consommez des biens, vous consommez des matières premières que vous transformez. Enfin, vous pouvez le mesurer, le recouper de toutes les façons possibles, imaginables. Et ça veut aussi dire des emplois. Puis ça, c'est physique, ça se voit avec des routes, ça se voit avec des écoles qu'on construit. On n'a jamais construit plus d'écoles au Bénin que dans les 5 dernières années. Ça se voit par le fait que vous passez à des taux de scolarisation beaucoup plus élevés. Donc, c'est physique et vérifiable et mesurable. Est-ce que ça débouche sur une réduction de la misère ou est-ce que ça débouche sur un progrès des inégalités? Là, c'est une vraie question et c'est pas les, et selon que les politiques publiques sont orientées vers plus de croissance inclusive ou totalement indifférente, il y a quand même un vrai choix. Et donc là, c'était un des choix intéressants de la campagne électorale. Est-ce que ça débouche sur des emplois pour les jeunes? C'est vrai que vous avez les cohortes, faut bien, vous voyez ce que sont les chiffres. La génération qui s'en va. Moi, j'ai 60 ans, je m'en vais, je prends ma retraite. Je suis remplacé par la nouvelle génération. Quand je suis né, il y avait 2 millions d'habitants. Quand sont nés ceux qui vont me remplacer sur le marché du travail, ils étaient 8 millions. Donc, il y a un remplacement des générations qui suppose énormément de création de richesses, de valeurs, pour simplement accueillir cette cohorte extraordinaire. La révolution démographique européenne, c'est du 0,5% de croissance de la population par an pendant 100 ans. Nous, c'est du 3,5% de croissance depuis déjà en accélération. Le Bénin est passé de 3,5 à 3,7 en accélération. Bien qu'il y ait moins d'enfants par femme, mais à cause des progrès d'espérance de vie. Et si vous voulez, ça, c'est un défi extraordinaire pour mettre dans l'emploi. Mettre dans l'emploi, ça veut dire créer énormément d'entreprises nouvelles. C'est pas simplement la structure ancienne qui peut absorber cette cohorte de jeunes. Et donc, on a des politiques à avoir vraiment complètement ciblées sur l'emploi. Sinon, la croissance ne crée pas de développement et elle crée essentiellement des classes moyennes supérieures. Alors, effectivement, vous produisez des biens de consommation. C'est pour ça que c'est le paradis terrestre pour L'Oréal, le pharmacien, Danone, Coca-Cola, Procter, etc. Vous avez de plus en plus de consommateurs. Mais la machine à créer des classes moyennes supérieures, qu'est la croissance économique, ne dit rien du nombre de plus en plus important des exclus, qui sont en plus des exclus qualifiés. Parce que l'image du paysan pauvre analphabète n'existe plus. Les gens pauvres exclus, ils ont les moyens de se rendre compte qu'ils sont exclus, d'agir dans la société civile. Et comme beaucoup plus de gouvernements sont des gouvernements démocratiques ou soumis à des élections au moins régulières, vous avez des gens qui savent parfaitement qu'ils sont exclus et rejetés. Et donc vous avez en réalité, des facteurs de déstabilisation assez forts. Et la croissance, et ça, c'était un des thèmes les plus intéressants de la campagne. La croissance, même si on la porte au Bénin de 6 à 8, et nous avons des camarades comme les Ivoiriens qui sont en rattrapage après de mauvaises années et qui sont plutôt à 10, la croissance ne va pas créer l'emploi, elle ne va pas créer l'égalité, elle ne va pas résoudre les problèmes sociaux et elle ne va pas faire passer les gens au-dessus du seuil de pauvreté s'il n'y a pas des politiques hyper spécifiques. Et c'est vraiment un enjeu énorme avec des risques de déstabilisation politique forte. C'était un assez beau thème de campagne. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure campagne qui ait gagné à cet égard parce que nous avons désormais un gouvernement très libéral qui pense quand même que la croissance va résoudre les problèmes. Moi, je pense que la croissance ne résout pas du tout les problèmes du développement.
Michaela Wiegel.
Oui, j'aimerais revenir au sujet de la guerre contre le terrorisme. Vous l'avez abordé, vous avez montré, et je crois que c'est très important, on l'oublie trop souvent vu d'Europe, que les pays africains sont aussi victimes de ce terrorisme mondialisé. Et je voudrais savoir dans quelle mesure les États européens, et notamment la France, qui est un peu la tête dans cette guerre contre le terrorisme, coopère avec les pays africains. Vous avez dû le voir en tant que Premier ministre. Comment ça se passe? Est-ce qu'on fait vraiment assez pour justement avoir, se donner tous les moyens pour gagner et non pas seulement des moyens sécuritaires?
Lionel Zinsou.
Alors là, moi je trouve, enfin, vous posez vraiment une question très, très importante. Les terroristes sont mieux financés, mieux commandés, mieux organisés, logistiquement, mieux équipés que les forces de sécurité en face d'elles. Parce que nos forces de sécurité, elles n'étaient pas préparées du tout pour cet ennemi non conventionnel et très puissant. Elles étaient préparées éventuellement pour des conflits d'ordre civil, mais sans rapport avec une force pareille. Prenez les moyens numériques de l'État islamique, de Boko Haram, d'Al-Qaïda, c'est sans comparaison avec ce que les forces de sécurité peuvent apporter. Alors, il y a d'abord une coopération très forte entre les pays. Donc, par exemple, Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, c'est quelque chose qui fonctionne très efficacement. Et aujourd'hui, franchement, Boko Haram est en recul. Il a cessé d'avoir une emprise territoriale, alors qu'il y avait cette ambition territoriale de faire un califat, comme en Syrie et en Irak. Et il est redevenu un groupuscule terroriste qui fait des coups de main. Donc c'est déjà un premier acquis, où les troupes du Tchad ont été absolument fondamentales, et les troupes nigériennes aussi, avec des moyens logistiques, numériques, d'équipements fournis par l'opération Barkhane française et par les forces spéciales des États-Unis. Et donc, c'est d'abord une coopération régionale, énormément de renseignements. Nos renseignements, traditionnellement, ils servent essentiellement à écouter les opposants politiques. Et vraiment, c'est plutôt des renseignements généraux ou intérieurs. Bon, là, il s'agit de faire du renseignement avec tous les moyens satellites et autres nécessaires. Donc, c'est une professionnalisation extraordinaire. Et il faut aussi des moyens financiers. La communauté internationale y pourvoit un peu, mais pas suffisamment par rapport à l'importance de la menace. Cela étant, si un seul des États, et notamment les États partiellement faillis, en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a en Afrique, basculait et devenait un État souverain au service d'un mouvement terroriste, là, c'est un État taliban, quelque part dans la zone sahélienne, le danger, il n'est pas pour l'Afrique. Il est pour l'Afrique immédiatement. Enfin, il est pour l'Europe. Parce que quand même, vous voyez, quand vous êtes au nord du Mali, vous êtes à 2 heures de vol de Séville. Hein. Et donc, vous êtes en Europe. Faut pas se tromper. À Kidal, vous êtes en Europe. Et donc, évidemment, un État souverain dans les mains terroristes, c'est un enjeu terrible. On a encore beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes. Il y a une professionnalisation nécessaire des forces de sécurité. Vous savez, on n'a pas le droit d'utiliser l'aide publique au développement pour des sujets de sécurité. Donc, la Banque mondiale ne vous financera jamais un système de couverture satellite qui vous permet de savoir où est Boko Haram. Parce que c'est quelque chose qui a un lien avec des dépenses militaires et on n'a pas voulu les encourager. Mais ça, c'est quelque chose qui doit muter. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir utiliser pour la sécurité des ressources qui sont des ressources financières du développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans probablement déjà un socle de sécurité. Alors pour l'instant, ça n'a pas déstabilisé complètement les États. On est passé très très près au Mali. Franchement, au Mali, quand l'opération Serval a débuté, on était à deux doigts par le soulèvement de Bamako qui permettait de faire jonction avec les troupes du Nord. On était à quelques heures de la constitution d'un État souverain terroriste. Et ça, on connaît. Il y a l'Afghanistan comme exemple, il y a la Somalie comme exemple. Et avoir ça à 2 heures de vol du sud de l'Europe, ça aurait été catastrophique. Et financer ça, il est naturel que ce soit la communauté internationale. Et on a vraiment un besoin de financement très très important. Même chose pour la piraterie. La piraterie, on n'en parle jamais, mais l'Union européenne et les flottes de l'Union européenne ont gagné la guerre contre la piraterie en face de la Somalie. Bon, il faut maintenant gagner sur ce autre théâtre d'opération extérieur qu'est le Golfe de Guinée, qui est essentiel pour les approvisionnements du monde, notamment en pétrole. Et là encore, ça va demander que localement on fasse des efforts et que la communauté internationale en fournisse des moyens technologiques. L'enjeu, si vous voulez, c'est le quart des approvisionnements de l'Europe en pétrole. L'enjeu n'est pas uniquement africain.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, justement, sur cette question de la France-Afrique et de la présence militaire française, je voulais savoir comment vous appréciez véritablement ce rôle. On a l'impression que la France continue d'être assez active, elle fait des choses utiles, vous l'avez rappelé au Mali, c'était sans doute indispensable d'intervenir comme on l'a fait. En même temps, on a l'impression qu'on joue un rôle qui est ingrat. C'est-à-dire que l'Afrique se développe, les relations se développent, économiques se développent considérablement avec la Chine, avec le Brésil, avec quantité de pays. La part de la France, je me souviens vous avoir entendu en parler déjà, Lionel, la part de la France dans le commerce général de l'Afrique diminue considérablement. Et quand il y a du sale boulot quand même à faire, comme en Centrafrique, on y va. Et je vois ça. Est-ce que là aussi, il y a un aspect de fatalité qui paraît quand même assez redoutable. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et je ne peux pas résister à la tentation, parce que tout ça est hypothéqué dans notre esprit, je crois, très gravement, par ce qui s'est passé au Rwanda. Le souvenir du Rwanda, quand on voit ce qui anime, par exemple, Védrine, qui en parle constamment, etc., et la façon dont le président Kagame utilise encore très fortement ce levier anti-français, comment vous appréciez cette histoire-là? Est-ce que vous estimez qu'on a commis une erreur fondamentale, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, où rien n'a répondu comme on voulait?
Lionel Zinsou.
Moi, ce que je pense, c'est que la France est un allié efficace de l'Afrique et pas le gendarme de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens en Afrique et en Europe qui pensent que la France se perpétue dans un rôle de gendarme, que c'est au-delà de ses moyens et illégitime. Moi, je pense que c'est simplement un allié efficace et fidèle. De toute façon, il faut être simple, hein, il n'y avait qu'un seul pays qui pouvait intervenir au Mali, et un seul qui pouvait intervenir en Centrafrique, et un seul qui pourrait intervenir au Tchad, etc. etc. C'est un peu... La Grande-Bretagne a eu des intérêts très importants dans cette région. On aurait pu penser qu'elle serait au premier rang au Nigeria. Elle n'a pas les moyens humains, politiques, aucune volonté d'assumer une responsabilité dans une situation de chaos entre nord et sud au Nigeria qu'elle a installée, qu'elle a créée. Dans les difficultés kenyanes, si vous voulez, la Grande-Bretagne a une responsabilité d'avoir opposé les populations qui est considérable. Dans les troubles au Rwanda, encore présents, fortement présents au Burundi, et dans le génocide et les tragédies antérieures, la Belgique a une responsabilité écrasante. Elle a construit des pays pour qu'ils soient inviables. Même chose en République démocratique du Congo. Elle en a même fait la théorie. Chose d'ailleurs que la France n'a pas faite. Mais la Belgique et la Grande-Bretagne ne sont pas à même d'assumer des responsabilités sur les conséquences de situations qu'elles ont largement contribué à créer. Il se trouve qu'il n'y a que la France pour le faire. On le voit d'ailleurs à certains égards ailleurs, plus loin en Afrique. Sur l'équipement militaire de l'Égypte, il n'y a pas trois puissances qui sont capables de rééquiper militairement l'Égypte, etc. Donc voilà, la France a un rôle auquel peut pas se soustraire, et elle fait ça pour compte de l'Europe. À mon avis, elle doit demander à l'Europe, ou est-ce qu'il en reste aujourd'hui, elle doit lui demander de cofinancer quelque chose qui est fait pour la protection de l'Afrique et de l'Europe solidairement. si vous voulez. Maintenant, effectivement, le drame du Rwanda, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de conséquences sur la définition de la politique de la France en dehors de la zone des Grands Lacs. Si vous voulez. Au Mali, on ne pense pas au Rwanda, mais c'est un traumatisme très très important de tous les côtés. Et en fait, il n'y aura que les historiens pour dire exactement qui a voulu ce génocide, qui l'a accompli. Et donc, franchement, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision claire sur ce qui s'est passé au Rwanda, qui a été fauteur de génocide, à qui a profité le crime collectif abominable. Et franchement, on ne peut pas tellement avoir de point de vue très objectif sur les responsabilités à ce stade. Mais je crois que ça n'obère la capacité, la légitimité française que dans l'Afrique des Grands Lacs, quelque chose de très important. Et pour l'instant, la zone vraiment forte de conflit, c'est le Sahel. Et là, je pense que la France peut faire encore des choses qui sont nécessaires comme allié. Mais c'est un allié, c'est pas un gendarme. Et vous avez raison de le dire, petit risque pour l'Afrique, c'est que c'est quand même fondamentalement une espèce de cause assez noble que ne soutiennent pas les intérêts économiques. Parce que, contrairement à ce que pensent les gens qui imaginent que la France-Afrique est toujours très active, si cela ne tenait qu'aux intérêts économiques de la France, elle n'aurait pas de raison de soutenir financièrement et humainement cet effort. Donc elle le fait pour rester une très grande puissance, je pense, c'est important, mais pas d'abord économique, plutôt politique et diplomatique. Parce que les intérêts économiques de la France, d'abord, ils ne les portent pas exactement vers les pays du précaré francophone, hein, c'est ni le Mali ni la Centrafrique, hein, les intérêts de la France, ils sont maintenant comme les trois grandes économies du pays, sud-africains, nigérians et égyptiens. Bon, donc le précaré, ça n'existe plus, absolument pas. Pour les grandes entreprises, ça n'existe plus. Donc il y a une dissociation entre l'intérêt économique d'agir et l'intérêt politique et diplomatique d'agir. Et moi, je pense que la France veut rester une grande puissance et que donc elle va continuer. Mais on ne sait pas ce que les gouvernements français de demain imposeront à l'opinion à cet égard. L'Afrique pourrait se retrouver sans alliés dans cette zone du monde si l'opinion et l'esprit public français n'y adhéraient pas.
Lionel Sassou, pour terminer cette émission dans le très peu de temps qui nous reste, une question qui nous ramène au Bénin. Est-ce que vous continuerez votre activité politique au Bénin? Est-ce que vous passerez à une activité d'un autre type, et notamment qui concerne le développement économique et le soutien au développement économique, si vous pouvez répondre?
Alors, quand j'étais jeune, j'avais un professeur à Sciences Po qui était Monsieur Raymond Barre, qui a été candidat aux élections présidentielles et qui, pour autant, ne s'est jamais mué en chef de l'opposition politicienne quand il n'a pas réussi. Alors, c'est un exemple trop important pour moi, mais quand même, moi, je pense qu'il y a... Enfin, c'est curieux, je pense que les économistes sont relativement utiles. Et alors, je pense que quelque chose de plus paradoxal, c'est que même les financiers sont assez utiles, et qu'en matière de développement, il vaut mieux que je fasse ce que je sais faire, si vraiment je peux le faire, et qui est, dans un continent qui n'est pas financé pour sa croissance, il n'est pas financé, faire en sorte qu'il soit financé, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse soutenir cette croissance, et notamment dans le domaine agricole, parce que là, ça a des conséquences sociales très très fortes. Si vous voulez, pour vous donner juste un chiffre, l'agriculture n'est pas financée dans notre continent. Elle utilise la moitié de la population. Elle représente à peu près 5% des concours financiers. Si j'étais capable, comme financier, de faire en sorte qu'on finance l'agriculture, ça aurait des conséquences sociales sur la qualité de la croissance qui me paraissent presque aussi utiles que de faire de la politique politicienne.
Lionel Sassou, merci et à bientôt, j'espère, derrière le micro de L'Esprit Public. L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Stéphane Desmonts. Nous retrouvons donc la semaine prochaine Bernard Hourcade. Nous rencontrerons donc la semaine prochaine Bernard Hourcade et nous parlerons des défis de l'Iran. J'espère vous y retrouver donc la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne.